Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829, écrites par Jean-François Champollion. 18e lettre. Première partie de 3. Thèbes, Médinet Abou. Le 30 juin 1829. On peut se rendre à la grande butte de Médinet Abou, soit en prenant le chemin de la plaine, en traversant le Ramesseion, l'emplacement de l'Amenophion, Memnonium, et les restes calcaires du Menephtheion, grand édifice construit par le fils et successeur de Ramsès le Grand, soit en suivant le vallon à l'entrée duquel s'élève le petit temple d'Hathor et de Thmeï. Là existe, presque enfoui sous les débris des habitations particulières qui se sont succédées d'âge en âge, une masse de monuments de haute importance qui, étudiés avec attention, montrent, au milieu des plus grands souvenirs historiques, l'état des arts de l'Égypte à toutes les époques principales de son existence politique. C'est en quelque sorte un tableau abrégé de l'Égypte monumentale. On y trouve en effet réuni un temple appartenant à l'époque pharaonique la plus brillante, celle des premiers rois de la 18e dynastie. Un immense palais de la période des conquêtes, un édifice de la première décadence sous l'invasion éthiopienne, une chapelle élevée sous un des princes qui avait brisé le joug des Perses, un propylon de la dynastie grecque, des propylées de l'époque romaine, enfin, dans une des cours du palais pharaonique, des colonnes qui jadis soutenaient le faîte d'une église chrétienne. Le détail un peu circonstancié de ce que renferme de plus curieux des monuments si variés me conduirait beaucoup trop loin. Je dois me contenter de donner une idée rapide de chacune des parties qui forment cet amas de constructions si intéressantes, en commençant par celle qui se présente en arrivant à la butte du côté qui regarde le fleuve. On rencontre d'abord une vaste enceinte construite en belles pierres de grès, peu élevée au-dessus du sol actuel, et dans laquelle on pénètre par une porte dont les jambages, surpassant à peine la corniche brute qui surmonte le mur d'enceinte, portent la figure en pied d'un empereur romain dont voici la légende hiéroglyphique, inscrite dans les deux cartouches accolées. Deux points. L'empereur César Titus Aelius Adrianus Antonius Pius. Le même prince est aussi représenté sur l'une des deux portes latérales de l'enceinte, où il est en adoration devant la triade de Thèbes à droite et devant celle d'Hermontis à gauche. C'est encore ici une nouvelle preuve de ces égards perpétuels de bon voisinage que se rendaient mutuellement les cultes locaux. Au fond de l'enceinte s'élève une rangée de 6 colonnes réunies 3 à 3 par des murs d'entre-colonnement qui n'ont jamais reçu de sculpture. On trouve encore, parmi les pierres amoncelées, provenant des parties supérieures de cette construction, la légende impériale déjà citée. L'enceinte et les propylées appartiennent donc au règne d'Antonin le Pieux. C'est d'ailleurs ce que démontrait déjà le mauvais style des bas-reliefs. En traversant ces propylées, on arrive à un grand pylône dont la porte, ornée d'une corniche conservant encore ses couleurs assez vives, est couverte de bas-reliefs religieux. L'adorateur, Ptolémée Sauter II, présente des offrandes variées aux sept grandes divinités élémentaires et aux dieux des Nomes, Thébains et Hermontites. Le mur de l'enceinte et les propylées d'Antonin, aussi bien que le pylône de Sauterre II, m'ont offert une particularité remarquable. C'est que ces constructions modernes ont été élevées aux dépens d'un édifice antérieur et bien autrement important. Les pierres qui les forment sont couvertes de restes de légendes hiéroglyphiques, de portions de bas-reliefs religieux ou historiques, tels que des têtes ou des corps de divinités, des chars, des chevaux, des soldats, des prisonniers de guerre, enfin de nombreux débris d'un calendrier sacré. Et comme on lit sur une foule de pierres, en tout ou en partie, le prénom ou le nom de Ramsès le Grand, il n'est point douteux, pour moi du moins, que ces blocs ne proviennent des démolitions du grand palais de Sésostris, le Ramesséion, ravagé depuis longtemps par les Perses, à l'époque où, sous Ptolémée Sauterre II et Antonin, on bâtissait les propylées et le pylône dont il est ici question. Au pylône de Sauterre succède un petit édifice d'une exécution plus élégante, semblable en son plan au petit édifice à jour de l'île de Philae. Mais les 8 colonnes qui le supportaient sont maintenant rasées jusqu'à la hauteur des murs des entrecolonnements. Tous les bas-reliefs encore existants représentent le roi Nektaneb de la 30e dynastie, la Sébénitique, adorant le souverain des dieux Amon-Ra et recevant les dons et les bienfaits de tous les autres dieux de Thèbes. Cette chapelle, du 4e siècle avant Jésus-Christ, avait été appuyée sur un édifice plus ancien. C'est un pylône de médiocre étendue, dont les massifs d'une belle proportion ont souffert dans plusieurs de leurs parties. Élevé sous la domination du roi éthiopien Taharaka, dans le 7e siècle avant notre ère, le nom, le prénom, les titres, les louanges de ce prince avaient été rappelés dans les inscriptions et les bas-reliefs décorant les faces des deux massifs et sur la porte qui les sépare. Mais à l'époque où les Saïtes remontèrent sur le trône des pharaons, il paraît qu'on fit marteler, par une mesure générale, les noms des conquérants éthiopiens sur tous les monuments de l'Égypte. J'ai déjà remarqué la proscription du nom de Sabakon dans le palais de Louxor, le nom de Taharaka subit ici un semblable outrage, mais les marteaux n'ont pu faire que l'on en reconnaisse encore, sans peine, tous les éléments constitutifs dans le plus grand nombre des cartouches existants. On lit de plus sur le massif de droite cette inscription relative à des embellissements exécutés sous Ptolémée Sauterre II. Deux points. Cette belle réparation a été faite par le roi seigneur du monde, le grand germe des dieux grands, celui que Phtah a éprouvé, image vivante d'Amon-Ra, le fils du soleil, le seigneur des diadèmes, Ptolémée toujours vivant, le dieu aimé d'Isis, le dieu sauveur, Soter Nt'Nohem, en l'honneur de son père Amon-Ra, qui lui a concédé les périodes des panégyries sur le trône d'Horus. Il n'est pas inutile de comparer cette fastueuse légende des Lagides à propos de quelques pierres qu'on a changées avec les légendes que l'Éthiopien, véritable fondateur du pylône, a fait sculpter sur le bandeau de la porte. elle ne contient que la simple formule suivante, deux points. La vie, ou vive, le roi Taharaka, le bien-aimé d'Amon-Ra, seigneur des trônes du monde. Sur les deux massifs extérieurs du pylône, ce prince auquel certaines traditions historiques attribuent la conquête de toute l'Afrique septentrionale jusqu'aux colonnes d'Hercule, a été figuré de proportions colossales. Tenant d'une main robuste les chevelures réunies en groupe de peuples vaincus qu'il menace d'une sorte de massue. Au-delà du pylône de Taharaka et dans le mur de clôture du nord, existent encore en place deux jambages d'une porte en granit rose, chargée de légendes exécutées avec soin et contenant le nom et les titres du fondateur, l'un des plus grands fonctionnaires de l'ordre sacerdotal, l'hiérogrammate et prophète Pétaménoph. C'est le même personnage qui fit creuser, vers l'entrée de la ville d'El Assassif, l'immense et prodigieuse excavation que les voyageurs admirent sous le nom de Grande Syringe. On arrive enfin à l'édifice le plus antique, celui dont les propylées de l'époque romaine, le pylône des Lagides, la chapelle de Nectaneb et le pylône du roi éthiopien ne sont que des dépendances. Ces diverses constructions ne furent élevées que pour annoncer dignement la demeure du roi des dieux et celle du pharaon, son représentant sur la terre. Ce vieux monument, qui porte à la fois le double caractère de temple et de palais, se compose encore d'un sanctuaire environné de galeries formées de piliers ou de colonnes, et de 8 salles plus ou moins vastes. Toutes les parois portent des sculptures exécutées avec une correction remarquable et une grande finesse de travail. Ce sont là des bas-reliefs de la meilleure époque de l'art. Aussi, la décoration de cet édifice appartient-elle au règne de Thoutmôsis Ier, de Thoutmôsis II, de la reine Amensé, du régent Amenepté et de Thoutmôsis III, le Muéris des historiens grecs. C'est sous ce dernier pharaon qu'on a décoré la plus grande partie de l'édifice. Les dédicaces en ont été faites en son nom. Celles qu'on lit sous la galerie de droite, l'une des mieux conservées, donne une idée de toutes les autres. La voici, deux points. Première ligne. La vie, l'Horus puissant, aimé de Phré, le souverain de la haute et basse région, grand chef de toutes les parties du monde, l'Horus resplendissant, grand par sa force, celui qui a frappé les 9 arcs, les peuples nomades, le Dieu gracieux, seigneur du monde, soleil stabiliteur du monde, le fils du soleil, Thoutmôsis, bienfaiteur du monde, vivifié aujourd'hui et à toujours. Deuxième ligne. Il a fait exécuter ses constructions en l'honneur de son père Amon-Ra, roi des dieux. Il lui a érigé ce grand temple dans la partie occidentale du Thoutmoseion d'Amon, en belle pierre de grès. C'est ce qu'a fait le roi, vivant toujours. La plupart des bas-reliefs décorant les galeries et les chambres des édifices représentent ce roi, Thoutmôsis III, rendant divers hommages aux dieux ou en recevant des grâces et des dons. Je citerai seulement des tableaux sculptés sur la paroi de gauche de la grande salle ou sanctuaire. Dans l'un, le plus étendu, le pharaon casqué est conduit par la déesse Hathor et par le dieu Atmou qui se tiennent par la main vers l'arbre mystique de la vie. Le roi des dieux, Amon-Ra, assis, trace avec un pinceau le nom de Thoutmôsis sur l'épais feuillage en disant, deux points, « Mon fils stabiliteur du monde, je place ton nom sur l'arbre Osht, dans le palais du soleil. » Cette scène se passe devant les 25 divinités secondaires adorées à Thèbes et disposées sur deux files, en tête desquelles on lit l'inscription suivante. Deux points. Voici ce que disent les autres grandes divinités de Thoth, Thèbes. Nos cœurs se réjouissent à cause du bel édifice construit par le roi soleil, stabiliteur du monde. J'ai trouvé dans le second tableau, pour la première fois, le nom et la représentation de la reine, femme de Thoutmôsis III. Cette princesse, appelée Ramaété, et portant le titre de royale épouse, accompagne son mari, faisant de riches offrandes à Amon-Ra, générateur. La reine reparaît aussi dans deux tableaux décorant une des petites salles de gauche au fond de l'édifice. Les six dernières salles du palais, dans l'une desquelles existe, renversée, une chapelle monolithe de granit rose, sont couvertes de bas-reliefs de l'époque de Thoutmôsis Ier, de Thoutmôsis II, de la reine Amensé et de son fils Thoutmôsis III. Dont les légendes royales sont sculptées en surcharge sur celles du régent Amenanté, martelées avec assez de soin, ainsi que toutes les figures en pied représentant ce prince, dont la mémoire fut aussi proscrite. La fondation de cet édifice remonte donc aux premières années du 18e siècle avant Jésus-Christ. Il est naturel, par conséquent, de rencontrer, en le parcourant avec soin, plusieurs restaurations annoncées d'ailleurs par des inscriptions qui en fixent l'époque et en nomment les auteurs. Tels sont deux points. Primo, la restauration des portes et d'une portion du plafond de la grande salle par Ptolémée Évergète II, entre l'an 146 et l'an 118 avant notre ère. Secondo, des réparations faites vers l'an 392 avant notre ère aux colonnes d'ordre proto-dorique qui soutiennent les plafonds des galeries sous le pharaon Mendésien Akhoris. On a employé pour cela des pierres provenant d'un petit édifice construit par la princesse Neitokris, fille de Psamétékus II. Tertio, toutes les sculptures des façades supérieures sud et nord exécutées sous le règne de Ramsès Meyamoun au 15e siècle avant notre ère. Ces derniers embellissements, les plus anciens et les plus notables de tous, avait été ordonné, sans doute pour lier par la décoration, le petit palais de Mouéris avec le grand palais de Ramsès Meyamoun, qui, avec ses attenances, couvre presque toute la butte de Médineh Habou. C'est ici, en effet, qu'existent les ouvrages les plus remarquables de ce pharaon, l'un des plus illustres parmi les souverains de l'Égypte, et dont les exploits militaires ont été confondus avec ceux de Sésostris ou Ramsès le Grand par les auteurs anciens et par les écrivains modernes. Un édifice d'une médiocre étendue, mais singulier par ses formes inaccoutumées, le seul qui, parmi tous les monuments de l'Égypte, puisse donner une idée de ce qu'était une habitation particulière à ces anciennes époques, attire d'abord les regards du voyageur. Le plan qu'en ont publié les auteurs de la grande description de l'Égypte pourra donner une idée exacte de la disposition générale de ces deux massifs de pylônes unis à un grand pavillon par des constructions tournant sur elles-mêmes en équerre. Je ne dois m'occuper que des curieux bas-reliefs et des inscriptions sculptées sur toutes les surfaces. L'entrée principale regarde le Nil. On tourne d'abord deux grands massifs formant une espèce de faux pylône, ensevelis en partie sous des buttes provenant des débris d'habitations modernes. Vers le haut règne une frise anaglyphique, composée des éléments combinés de la légende royale du Ramsès fils aîné et successeur immédiat de Ramsès Meyamoun. Soleil, gardien de vérité, éprouvé par Amon. On remarque de plus sur ces massifs des tableaux d'adoration de la même époque et deux fenêtres portant sur leur bandeau le disque ailé de Hat et sur leur jambage les légendes royales de Ramsès Meyamoun. Soleil, gardien de vérité et ami d'Amon. La porte qui sépare ces constructions appartient au règne d'un troisième Ramsès, le second fils de Meyamoun, le soleil, seigneur de vérité, aimé par Amon. Dans l'intérieur de cette petite cour s'élèvent deux massifs de pylônes ornés, ainsi que les constructions qui les unissent au grand pavillon, de frises anaglyphiques, portant la légende du fondateur, Ramsès Meyamoun, et de bas-reliefs d'un grand intérêt parce qu'ils ont trait aux conquêtes de ce pharaon. La face antérieure du massif de droite est presque entièrement occupée par une figure colossale du conquérant, levant sa hache d'armes sur un groupe de prisonniers barbus dont sa main gauche saisit les chevelures. Le dieu Amon-Ra, d'une stature tout aussi colossale, présente au vainqueur la harpée divine en disant, deux points, « Prends cette arme, mon fils chéri, et frappe les chefs des contrées étrangères !» Le soubassement de ce vaste tableau est composé des chefs des peuples soumis par Ramsès Meyamoun, agenouillés, les bras attachés derrière le dos par les liens qui, terminés par une houppe de papyrus ou une fleur de lotus, indiquent si le personnage est un Asiatique ou un Africain. Ces chefs captifs, dont les costumes et les physionomies sont très variés, offrent, avec toute vérité, les traits du visage et les vêtements particuliers à chacune des nations qu'ils représentent. Des légendes hiéroglyphiques donnent successivement le nom de chaque peuple. Deux ont entièrement disparu. Celle qui subsiste, au nombre de cinq, annonce, deux points, le chef du pays de Kouchi, mauvaise race, l'Éthiopie. Le chef du pays de Terosis. Le chef du pays de Toroao, tous ces chefs provenant de l'Afrique. Et le chef du pays de Robou, le chef du pays de Moschaouch, provenant de l'Asie. Un tableau et un soubassement analogue décorent la face antérieure du massif de gauche. Mais ici, tous les captifs sont des chefs asiatiques. On les a rangés dans l'ordre suivant, deux points. Le chef de la mauvaise race du pays de Cheto ou Cheta, le chef de la mauvaise race du pays d'Aomor, le grand du pays de Fekaro, le grand du pays de Cherotana, contrée maritime, le grand du pays de Cha. Je vois ici S-C-H-A, trois points, entre parenthèses, le reste est détruit. Le grand du pays de Twirsha, contrée maritime, le grand du pays de Pa, P-A, trois points, le reste est détruit. Sur l'épaisseur du massif de gauche, Ramsès Meyamoun casqué, le carquois sur l'épaule, conduit des groupes de prisonniers de guerre au pied d'Amon-Ra. Le dieu dit au conquérant, deux points, « Va, empare-toi des contrées, soumets leurs places fortes et amène leurs chefs en esclavage. » Le massif correspondant et les corps de logis qui réunissent le pylône au grand pavillon du fond sont couverts de sculptures qu'il serait trop long de détailler ici. On remarque des fenêtres décorées extérieurement et intérieurement avec beaucoup de goût et des balcons soutenus par des prisonniers barbares sortant à mi-corps de la muraille. L'intérieur du grand pavillon, divisé en trois étages, fut décoré de bas-reliefs représentant des scènes domestiques de Ramsès Meyamoun. Je possède des dessins exacts de tous ces intéressants tableaux, parmi lesquels on remarque le pharaon, servi par les dames du palais, prenant son repas, jouant avec ses petits-enfants, ou occupé avec la reine d'une partie de jeu analogue à celui des échecs, etc., etc. L'extérieur de ce pavillon est couvert de légendes du roi ou de bas-reliefs commémoratifs de ses victoires. C'est en suivant l'axe principal de ces curieuses constructions qu'on arrive enfin devant le premier pylône du grand et magnifique palais de Ramsès Meyamoun. L'édifice que nous venons de décrire n'en était qu'une dépendance et une simple annexe. Fin de la première partie de 3 de la 18e lettre des lettres écrites d'Égypte par Jean-François Champollion ainsi que du 19e fichier.